On va commencer en douceur. Je ne vous présente pas Jean-Michel Ribes.
Pourquoi ?
Parce que je vais en fait le laisser le faire. Et le laisser le faire à travers, par le biais du livre qu'il vient de publier aux éditions L'Iconoclaste. C'est d'ailleurs une maison d'édition dont le titre lui va bien, pour son ouvrage « Mille et un morceaux ». C'est un ouvrage qui ne se présente pas de manière linéaire, comme son titre l'indique, il est fait de morceaux de vie. Néanmoins, en tant que modeste lecteur, même si j'ai bien vu qu'il y avait des morceaux qui étaient éparpillés ça et là, il m'a semblé qu'il y avait une grande homogénéité dans ce livre et qu'on pouvait assez aisément en tirer des éléments qui tracent un parcours assez exceptionnel. Si on le connaît beaucoup sur le registre de l'humour, on aura l'occasion d'y revenir parce que je crois que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les gens qui sont trop sérieux. C'est aussi un livre qui a des moments de tendresse, d'amour, et qui est aussi un véritable éloge de l'amitié, toutes choses sur lesquelles nous allons débattre, nous entretenir maintenant. Alors, je ne suis pas très original parce que je vais remonter aux origines, d'autant que pour partie, mais ça on ne va pas s'arrêter trop là-dessus, elles ont un petit côté bordelais et béarnais. Néanmoins, vous avez, c'est quelque chose qui traverse quand même de manière extrêmement sensible ce livre, vous avez tout le monde un père et une mère, vos parents se sont séparés assez tôt et votre mère s'est remariée avec le fils d'Alfred Cortot, le grand pianiste, immense interprète de Chopin. Jean Cortot, son fils, était peintre.
Il l'est toujours.
Et il l'est toujours. Vous dites d'ailleurs que par rapport à votre parcours, si vous devez l'amour du théâtre, sur lequel nous reviendrons aussi à votre mère, vous devez aussi l'amour de la peinture à Jean Cortot. Néanmoins, votre père est très loin d'être absent de ce livre et j'y reviendrai parce que il y a un passage qui est absolument bouleversant dans ce livre, en tous les cas qui m'a bouleversé et qui m'a même fait pleurer. Alors pourquoi m'en cacherais-je ? Voilà, alors ses origines.
Mes origines, justement, je ne voulais pas commencer ce livre par mes origines. J'ai refusé pendant 15 ans de faire un livre de souvenirs ou un livre dit autobiographique qui raconte sa vie parce que je trouvais que on est finalement que les bêtises qu'on écrit, qu'on fait, ces films, ces pièces de théâtre ou autres petits livres qu'on a publiés. Donc je ne voyais pas l'intérêt vraiment de me raconter. Donc j'ai essayé de ne pas me raconter, de raconter presque quelqu'un d'autre qui me ressemblait parce que je n'avais pas envie de faire du nombrilisme. Donc, je n'ai pas commencé par les origines. C'est un livre qui va par, hockey, par gambade. C'est un livre que j'ai voulu faire naturellement, c'est-à-dire que j'ai voulu faire parce qu'il me revenait, comme ça, une idée. Alors, je l'écrivais parce qu'elle me plaisait, parce qu'elle m'amusait. Et c'est vrai que ce que je trouvais savoureux, c'est de dire avec autant de passion, d'intérêt ou d'amusement les travaux que j'ai fait par exemple avec Alain René quand j'ai écrit Cœur, son film adapté d'une pièce de Eckborn, à équivalence d'intérêt avec mon goût pour les lanières à la guimauve. C'est-à-dire que tout ce qui me plaisait, j'ai eu envie de le mettre. Alors il n'y a pas tout, mais c'est un peu ce regard-là un peu distancié, et surtout des choses qui semblaient m'intéresser et qui m'épataient même. Parce que plus je parlais de moi, moins je me reconnaissais. Donc ce personnage-là m'intéressait, m'épatait. C'est un peu comme quand j'écris mes pièces. Je suis mes personnages. Je ne les dirige pas. Bien ensuite, je ne me suis pas dirigé. Je me suis suivi. Voilà. Donc mes origines... Oui, j'ai eu un papa, j'ai eu une maman, il y a eu des drames, etc. etc. Mon premier souvenir, puisqu'il faut commencer par le commencement, c'est vrai, c'est une tache de soleil sur un mur de ma chambre. Quand j'étais enfant, je me souviens très bien, c'est une tache orangée. J'ai trouvé ça assez chaud, assez gai, assez réconfortant, et je me suis dit, continuons.
C'est la première phrase du livre. D'ailleurs, puisqu'on est à Bordeaux... Et par rapport à ce que vous dites, je pense à Montaigne, ne m'en voulez pas, qui disait « On dit bien vrai qu'un honnête homme est un homme mêlé, Et je pense que cette pensée de Montaigne vous va comme un gant. Et en tous les cas, c'est vrai que ce livre est fait de tout ce travail de couture entre ces différents éléments et qu'il est vraiment intéressant pour ça. Alors, puisqu'on était à l'Arénée au cinéma, alors je vais aller dans votre parti pris en prenant des morceaux ça et là. Restons un petit peu dans le cinéma. Vous avez joué dans 20 ans dans les Aurès, mais il y a à un moment donné quelque chose qui m'a beaucoup amusé, que j'aime beaucoup le cinéma hollywoodien. Vous faites une rencontre étonnante dans une partie qui s'appelle Breakfast.
Oui, j'habitais à Paris, mes parents habitaient à Paris rue du Bac, et c'était un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, et il y avait un petit appartement au deuxième étage où j'habitais avec eux et mon frère, et il y avait une cour pavée, et un jour, je courais tous les matins prendre un bus pour me rendre à l'école en traversant cette cour, et un jour, je me suis aperçu qu'il y avait un grand et bel homme habillé d'une robe de chambre en soie qui avait mis une table presque en marqueterie dans cette cour pavée et accompagné d'une vaisselle extrêmement élégante, prenait son petit déjeuner en saluant tout le monde, ressentant manifestement qu'il était chez lui. Alors, je voyais depuis chaque matin, il me parlait, il avait un accent américain. Et je voyais de plus en plus, chaque jour, les dames de l'immeuble passer à côté de lui en s'habillant de leurs toilettes les plus coquettes. Et petit à petit, et j'étais très intrigué par cet homme, charmant au demeurant, qui me proposait parfois même de partager un croissant avec lui. Et un jour, je n'en pouvant plus, j'arrivais même en retard à l'école, me faisant insulter par un professeur de grec qui me détestait, donc qui m'a détesté de plus en plus à cause de cet homme qui me faisait arriver en retard. Et j'ai un jour demandé à ma mère, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est cet homme? Elle me dit, mais tu ne l'as pas reconnu, c'est Cary Grant. Et c'était Cary Grant qui, à l'époque, tournait un film que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui s'appelait Charade, avec Audrey Hepburn. Et il habitait là. Il avait loué un appartement là. Il avait donc considéré que toute la maison et l'hôtel particulier lui appartenaient et que la cour n'était qu'une prolongation d'une des pièces qu'il avait louées. Et c'était son jardin. Donc, il prenait tous les matins son petit déjeuner là. Et la concierge, qui était très acariâtre et qui ne supportait aucun désordre, bien évidemment, ébloui, ne lui a jamais dit que c'était pas tout à fait chez lui où il prenait son petit déjeuner. Voilà.
Il y a quand même de très belles rencontres dans ce livre. Il y en a une autre, alors on va passer un peu dans le registre littéraire qui m'a amusé, vous ne voulez pas. C'est celle avec Monterlan, parce qu'elle fait un peu brutale quand même.
Oui, j'étais tout jeune, je venais d'écrire une pièce par Delà les Marronniers que d'ailleurs je suis en train de réécrire, que je vais remonter au mois de mars sur Croix d'Adaïs, dont Arthur Cravan, qui était boxeur et qui, pour faire écho à Montaigne, parle de la funeste pluralité des hommes, les hommes mêlés de ça. Et donc un jour, je partais justement de chez ma mère qui habitait rue du Bac. Moi, j'habitais un peu plus loin, rue de Beaune, mais j'étais très en retard, donc je courais pour aller chercher un manuscrit chez moi. Et à l'angle de la rue de Beaune et de la rue Université, aveugle, j'ai tamponné un homme. Il s'est écroulé devant moi net, comme si je l'avais cassé le cou. Il est tombé par terre. Je me suis précipité et j'ai vu un homme dans un imperméable mastic, les cheveux carrés qui ne bougeaient plus, et j'ai reconnu Monterlan. Et je me suis dit, je viens de tuer Henri de Monterlan. Il habitait pas très loin, il habitait quai Voltaire, donc c'était bien lui, il allait chez Gallimard, etc. Et je me suis dit, je viens de tuer. Et pendant que je pensais, je viens de tuer Henri de Monterlan, une énorme Buick américaine décapotable est arrivée. Le conducteur était un très bel Africain, torse nu, enfin moulé dans un t-shirt, a sauté par-dessus la portière, a couru, a attrapé Monterlan comme une vieille valise, l'a jeté à l'arrière de la Buick et est parti à toute allure dans la rue de Beaune. J'ai vu Monterlan se réveiller, lui taper sur l'épaule, ce qui m'a un peu attristé, parce que je me suis dit quand même, j'ai vraiment regretté de ne pas être l'assassin de Monterlan, parce que je passais immédiatement à la postérité, et ça aurait été beaucoup plus facile et plus rapide et plus glorieux qu'avec toutes mes pièces que j'allais écrire après. Mais voilà, seulement, il s'est suicidé 2 mois après, en avalant une pilule de cyanure et en se tirant une balle dans la tête pour laisser à personne la gloire de son meurtre. Et il était en réalité à peu près aveugle, d'où cette rencontre qu'il n'avait pas vu venir.
Alors, quand il ne renverse pas Monterland, il renverse le café sur ce pauvre Ionesco, décidément, vous avez le chic.
Oui, ça, c'était un petit... C'est tout jeune aussi, je courais, j'allais à la coupole et j'ai très en retard un matin et j'ai bousculé une table entière et j'ai renversé le petit déjeuner complet café, lait sur Ionesco. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que un croissant au beurre avec du lait sur la braguette de Ionesco, c'était quand même assez absurde et si quelqu'un était le roi de l'absurde, c'était lui, je pense que ça ne lui a pas déplu.
Il y a d'autres rencontres, alors je ne vais évidemment pas du tout suivre ce que je m'étais proposé de suivre. Il y en a une que j'ai bien aimée avec Alain Cuny, que vous rencontrez par vos parents, je crois qu'ils le connaissaient bien. Et ce qui m'a amusé, ce que vous dites à la fin de ce passage, parce qu'on sait qu'il a joué dans Emmanuel, et il dit, pourquoi il aurait joué dans Emmanuel ? Pour me débarrasser des gens que je n'aimais pas, et vous affirmez, vouer un culte à cette phrase.
Pour me débarrasser de l'estime des gens que me portaient. C'est l'estime des gens que me portaient, des gens que n'aimaient pas. Oui, je trouve ça extraordinaire parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui vous estiment et vous avez presque honte de leur estime. C'est Rimbaud qui disait « Je ne veux pas que mes livres soient lus par certaines personnes ». Voilà, alors c'est ce que dit Cuny et je trouve que c'est assez juste. J'aimerais pas être aimé par Marine Le Pen, vous voyez ? Ça m'énerverait. Mais je n'ai pas beaucoup de risques.
Oui, ça, a priori. Alors, puisque vous parlez de ça, alors il y a une circonstance aussi assez amusante. Je ne dis pas que le lien soit immédiat, encore qu'il soit assez proche avec Marine Le Pen. À un moment, vous vous retrouvez dans un hôpital. Mmh. C'est en pleine affaire Civitas, dont vous êtes victime pour une pièce. Voilà. Et vous pouvez raconter, parce que vous raconterez sans doute beaucoup mieux que vous.
Non, donc... on avait le Théâtre du Rond-Point que je dirige a comme dogme absolu de ne monter que des auteurs vivants. Il y a assez de monuments aux morts, je trouve que monuments aux vivants, c'est bien aussi. Puis Shakespeare, notre contemporain, et quoi de neuf Molière, j'en ai un peu marre. Donc il y a aussi des gens aujourd'hui, des poètes d'aujourd'hui, des gens qui disent aujourd'hui et qui racontent aujourd'hui. Donc c'est ceux-là qui j'ai voulu donner l'hospitalité. Et c'est vrai que parmi eux, il y a un garçon qui s'appelle Rodrigo Garcia, qui est un Argentin espagnol, grand poète, grand écrivain, et qui avait écrit deux pièces, dont une, enfin plusieurs pièces, mais une qui s'appelait Golgotha Picnic, et qui avait fait évidemment scandale. Ce n'était pas d'ailleurs tellement blasphématoire, c'était de montrer qu'à partir du moment où la religion est publique, où la religion devient quelque chose qui rentre dans la société, interdit d'avorter, interdit de mettre des préservatifs, etc. On a le droit d'en parler et d'être contre, et en particulier l'idée qu'un jeune enfant démuni, ne connaissant rien, rentrant dans une église, pourrait être très traumatisé de voir tous ces gens écorchés, pendus, et étalés sur des croix. Enfin bon, c'est une espèce de musée des horreurs. Donc il a développé ça et c'était assez beau. Et évidemment, il y a le parti extrémiste radical, hystérique, catholique, qui s'appelle Civitas, qui a immédiatement réagi comme quoi on attaquait le Christ. Je crois que c'est eux qui faisaient une très mauvaise publicité à ce Christ, qui est plutôt un jeune poète émouvant et donnant le pardon. Et donc, qui ont mobilisé des troupes et qui chantaient tous les jours pendant qu'on jouait cette pièce, protégée par 400 CRS quand même, parce que j'avais reçu 150 menaces de mort, plus des couteaux laissés dans le théâtre, des attaques la nuit, cassant les portes, des systèmes d'alarme, des cutters où il y avait écrit Christ sur l'alarme. Enfin, vraiment, une vraie attaque. La préfecture de police avait considéré qu'on devait être protégé comme un G8. Donc, il y avait 400 CRS qui nous protégeaient. C'est mal. Et nous, moi, j'étais assez content parce qu'il y avait du théâtre dedans et du théâtre dehors. Et ils chantaient d'ailleurs tous les soirs, 500 personnes, tenues un peu loin, chantaient Pendez, pendez Jean-Michel Ribes dans son théâtre de Satan. Les paroles étaient pas mal, le problème c'est qu'ils chantaient un peu faux, mais sinon c'était assez intéressant. Et donc, ils voulaient vraiment ma peau. Ils étaient d'une violence incroyable. Et je dois dire d'ailleurs que, pour être tout à fait honnête, les gens qui m'ont le plus soutenu sont des catholiques modérés, des prêtres, des évêques qui sont venus nous défendre. Bon. Et donc, ils voulaient ma peau. Et les menaces de mort que je recevais étaient vraiment... pas toujours très drôle. Et 6 mois après, j'étais à Nancy où on présenté un opéra bouffe qui s'appelait René l'énervé, René l'énervé étant Sarkozy, qui était un opéra bouffe plutôt amusant. Et donc, à la sortie de l'opéra de Nancy, j'ai été très, très violemment agressé par des membres de Civitas qui m'ont ceinturé et qui m'ont déversé plusieurs cajots remplis d'excréments de chiens, dans lesquels il y avait d'ailleurs des tracts sur Jésus, etc. Ce mélange, c'est un peu mettre quand même la religion dans la merde, si j'ai bien compris, c'était pas ce qu'ils cherchaient, mais c'était ça. Donc, je savais qu'ils me cherchaient. Quelques temps après, des années après, j'ai eu un petit problème cardiaque, j'ai été emporté et soigné dans l'hôpital à Paris, l'hôpital Cochin. On m'a mis là pour deux nuits pour me surveiller. Et la première nuit, je dormais. Tout d'un coup, le néon s'allume. Il était 11h du soir. Une petite dame entre, infirmière de garde, me dit, je suis infirmière de garde, etc. Elle prend mon dossier, me met des perfusions, enfin, s'occupe de ça. Puis tout d'un coup, me dit, je vois d'ailleurs qu'elle avait un grand cœur sur sa blouse en métal. Je me dis, oui, truc cardiaque, c'est normal. Or, en vérité, c'était le cœur de Civitas. Et je ne savais pas. Elle me dit, vous savez, ah oui, vous dirigez en point. Oui, mais moi, j'y étais pendant 12 jours, tous les jours. C'était formidable, une spectatrice assidue. En vérité, elle faisait partie du mouvement Civitas. Et là, panique me prend. Je me suis dit, ils viennent m'achever à l'hôpital. Surtout qu'elle me dit, vous savez, moi, je ne suis pas à l'hôpital, je suis venu une nuit en remplacement. Donc je me dis, ben voilà, je suis bon. Elle me donne des médicaments que je recrache en douce. Je fais des perfs, elle me fait des trucs. Et puis d'un coup, enfin, ça dure assez longtemps. Moi, j'avais une tachycardie qui montait. Je me dis, et tout d'un coup, elle s'agenouille à côté de moi, de mon lit, je ne pouvais pas bouger. Ah oui, non, à un moment, je me dis, il faut que j'appelle l'infirmière de garde. Mais j'oubliais que l'infirmière de garde, c'était elle. Donc ça ne servait pas à grand-chose. Et elle s'est assise à côté. Enfin, ça. Et elle s'agenouille, elle me dit, monsieur Rib, il va falloir vous confesser parce que Dieu veut vous parler. Je me suis dit, bon, ben voilà, il va y avoir l'extrême onction, ma vie va s'arrêter là. Et puis, elle a fini par s'en aller en me regardant une mère carnassière, et voilà, ouf, merci mon Dieu. Voilà, enfin, c'est une histoire incroyable, mais c'est quand même une histoire qui, tout d'un coup, sans être paranoïaque, vous met dans des états de. Ils ne sont pas bons pour les infarctus.
Alors, on peut croire que les artistes sont toujours des êtres parfaitement engagés et respectables. Alors, il y a quand même, par rapport quelque part à cette histoire, il y a un moment qui est assez lucide. C'est l'épisode qui s'appelle « Aux armes ». Jean-Jacques Chevalier, c'est Jean-Jacques qui s'appelait le maire Front National de Toulon quand ils veulent démettre, oui. Ils démettent d'ailleurs de ses fonctions le directeur d'un théâtre, et un certain nombre d'intellectuels et d'artistes se rassemblent dans une gare à Paris, je ne sais plus laquelle c'est.
C'est la gare de Lyon.
Oui, parce que moi je suis trop habitué à Montparnasse. Mmh. Et donc tout le monde se réunit.
C'est-à-dire qu'il y avait, oui, il y avait un acte très très violent quand les gens du Front National avaient pris la mairie de Toulon, et le maire en effet avait destitué un type formidable qui avait fait un grand centre de danse très libre, des tas de jeunes faisaient une chorégraphie, etc. Il avait décidé de terminer parce que la raison invoquée, je crois que c'est parce qu'il n'avait pas voulu accepter une pièce ordonnée par la mairie, parce que la mairie n'avait pas à faire la programmation. Enfin bref, un conflit mineur, il en avait profité. Bon. Donc évidemment, toute la population théâtral, intellectuel de Paris, avait fait aux armes, allons le défendre, etc. Nous louons un train spécial pour descendre à Toulon. Donc, plein d'artistes, Roger Hanin, Jean-Paul Belmont, enfin, des tas de gens se mettent, on arrive tous gare de Lyon devant le train photo, le train va partir, attention, on descend à Toulon. Donc, photographie de tous les artistes qui partent à Toulon. Et puis, on dit, attention, le train démarre. Moi, je monte dans le train avec Bertrand Tavernier, et plein de jeunes militants, et on avance et on ne voit personne, on ne trouve personne. C'est-à-dire qu'on dit, mais où ils sont? Eh bien, ils étaient venus juste faire la photo, et quand le train est parti, hop, ils sont restés à Paris. Et nous, on est partis seuls avec Tavernier. Et je veux dire que c'était héroïque parce que j'ai passé la nuit dans un wagon avec Tavernier, qui était un type qui a beaucoup de talent, je connais depuis longtemps, mais qui parle énormément. Donc, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, et voilà. Je suis arrivé pour manifester avec un peu de fatigue. contre, pour libérer la création à Toulon.
Alors, on pourrait trouver ça surprenant, mais en fait, à un moment donné, il y a un passage aussi qui est assez comique, où vous faites l'éloge de l'ennui à travers une expérience que vous vivez dans un hôtel parisien avec les deux Jacques, Jacques Dutronc et Jacques Villeray. En fait, l'ennui est un magnifique moteur pour l'existence et procure des sensations extrêmement vives.
C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire que j'étais très ami avec Jacques, enfin, je suis toujours très ami avec Jacques Dutronc et Jacques Villeray, et les dimanches, on essayait d'aller dans l'endroit le plus ennuyeux de Paris. Parce qu'on voulait chercher l'endroit vraiment où, où il y avait un ennui pur, vraiment un ennui exceptionnel, un ennui... et on l'avait trouvé dans un hôtel qui était le PLM Saint-Jacques, qui est au boulevard Saint-Jacques, où il y avait des gens tout à fait anodins qui passaient, qui disaient rien. Alors on se mettait dans le hall et on restait là pendant assez longtemps et on disait quelle merveille, et on soufflait quand on voyait quelqu'un d'encore plus ennuyé que quelqu'un d'autre, on se le désignait, voilà... Et tout ça était... On passait des dimanches incroyables. Ensuite, on allait dans un restaurant japonais où Jacques Dutronc imitait le cuisinier japonais dans un japonais tout à fait inventé. Lui racontait un film un peu grotesque qu'il avait fait, qui était... c'était une caméra qui suivait des pieds qui partaient de France. Et sur une carte, ça partait France, Allemagne, Russie, ça arrivait jusqu'en Asie. On arrivait... enfin au Cambodge, puis au Vietnam. Et à ce moment-là, le type dont les pieds étaient, enfin, à qui les pieds appartenaient s'arrêtait et faisait une énorme flatulence, et le film s'appelait « Paix au Vietnam ». Et il mourait de rire en demandant au cuisinier japonais s'il était content de ça. Le japonais lui disait pour la centième fois qu'il n'était pas du tout vietnamien, mais japonais, il n'avait rien compris. Et ensuite, nous retournions dans le hall de cet hôtel fort ennuyeux et nous achetions dans la boutique de l'hôtel toutes les choses pour les touristes, c'est-à-dire des portraits, des reproductions de la Joconde, de l'Arc de Triomphe, de la Tour Eiffel. Nous sortions dehors et comme cet hôtel était tout près de l'hôpital Sainte-Anne, il y avait tous les fous qui se promenaient le dimanche après-midi, parce que c'était le dimanche, qui était en promenade, et à qui nous distribuions des Jocondes et des Tours Eiffel. Et ils venaient très vite vers nous, parce qu'ils voyaient bien qu'on était à peu près dans le même état qu'eux. Et on se quittait vers 5 heures du soir, en se disant, on va s'ennuyer toute la semaine, vivement dimanche prochain, qu'on s'ennuie vraiment.
Alors, ce qui me permet de suivre avec ce qui est une de vos caractéristiques, c'est que vous êtes quelqu'un qui est quand même contre l'esprit de sérieux et qui pratiquait l'éloge du rire. Alors, je cite des choses. Vous avez une allergie à l'esprit de sérieux, allergie que vous partagez avec Claude Régis, que vous définissez comme ça, je trouve cette formule très belle, qui passe au-dessus du langage. Et après, la spiritualité sans humour n'est qu'une cathédrale sans Dieu. Mais vous citez Picabia, les gens sérieux ont une petite odeur de charogne, ou Topor, le sérieux n'est que la crasse accumulée dans des crânes vides. Donc manifestement, vous avez quelque chose contre l'esprit de sérieux.
Je pense que tout le monde a l'esprit de sérieux. L'esprit de sérieux, à force d'être dans le raisonnement, dans la règle, etc., c'est quelque chose qui finit par boucher les idées, c'est un peu le cholestérol de l'imaginaire, et on ne peut plus s'évader vers le rêve, on peut s'évader surtout vers ce qui me semble être l'oxygène absolu de nous pour lutter contre la réalité, et surtout cette réalité qui nous écrase tous les jours, c'est la fantaisie. S'il n'y a plus de fantaisie, c'est la mort. Et l'esprit de sérieux est l'ennemi absolu de la fantaisie. Et je pense que, je crois que, comme le disait Aragon, il faut creuser des galeries vers le ciel, il faut s'évader des... Vous savez, on nous dit toujours qu'il faut regarder la réalité en face. Mais quelle réalité, la vôtre, la mienne, etc. Il y a un surréaliste belge que j'aime beaucoup, qui s'appelle Skutner, qui disait qu'il ne faut pas regarder la réalité en face, il faut regarder la réalité en farce. Et je pense que c'est ce qui nous permet d'avancer et de continuer à vivre. C'est ça l'humour de Renaissance, c'est ça. On ne peut pas être à genoux devant uniquement le raisonnement des gens qui savent. Ça tue la pensée, il faut aller ailleurs. Le théâtre, le cinéma, la poésie est fait pour que... On dit aux gens, il y a d'autres univers, il y a d'autres... L'utopie est quand même la seule chose qui me semble vivable, et on ne peut pas rester coincé dans la réalité. Elle ne nous aime pas, la réalité. Vous avez remarqué en ce moment, elle ne nous aime pas. Donc nous, on n'a pas de raison de l'aimer. Et c'est vrai que l'esprit de sérieux participe beaucoup à l'enfermement, à l'enfermement de la vie, finalement, qui est quelque chose qu'on ne peut pas encadrer par des règles. Et pas, il faut toujours avoir la possibilité de sortir et avoir des issues de secours. Je pense que la littérature, les créateurs sont des issues de secours qui nous montrent que tout n'est pas foutu. Et sauter dans le vide, par moments, permet de trouver d'autres planètes où on vit peut-être mieux que sur la nôtre, ou en tout cas, où il est bon d'y aller de temps en temps.
Alors, dans ce livre aussi, ça c'est quand même quelque chose qui est une constante, c'est entre guillemets pour le mot traité, mais c'est vraiment un traité de l'amitié. Il y a quand même des amitiés qui fondent votre vie, d'ailleurs, dès votre jeunesse. Il y a notamment Gérard Garrousse, que vous rencontrez assez tôt dans votre jeunesse.
Oui.
Et pour moi, c'est aussi on va pas revenir à Montaigne, parce que la phrase est trop connue, mais enfin, c'est quand même un livre magnifique sur l'amitié.
Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un l'autre jour, un critique, qui m'a dit « Vous avez fait un portrait de vous à travers les autres » et ça m'a assez plu. C'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des gens, que ce soit Garrousse, le peintre, que ce soit Topor, que ce soit Gouriot, que ce soit Aramal, que ce soit Copy, enfin un tas de gens qui, tout d'un coup, on s'est mis ensemble et on a respiré ensemble et tout d'un coup, on s'est aperçu que, on était les uns pour les autres, des respirations, des capacités de repousser les nuages, la tristesse, etc. Et on était en effet dans une amitié à la fois affectueuse, à la fois créatrice dans les idées qui se mêlaient, qui en trouvaient d'autres, à la fois dans un grand rire. Et à la fois aussi dans une forme quand même de lutte et de combat contre ce qu'on pourrait appeler le néant, la barbarie de la civilisation.
Alors, vraiment, je vous conseille quand même, parce qu'il y a des portraits de vos amis qui sont forts. Quoi. On peut dire, je pense à Roland Blanche, dont vous parlez, Philippe Corsan, je crois que c'est son prénom. En fait, vous avez une petite communauté autour de vous, d'ailleurs, que l'on retrouve pour ceux qui n'ont vu pas là, tout ça, c'est une communauté qui est avec vous et qui est, à mon avis, un petit peu inséparable de tout votre univers. Et ça, c'est quelque chose de très beau. Alors, il y a aussi, vous ne vous en cachez pas, il y a aussi vos amours. Et puisqu'on était...
Je tiens à signaler que la seule chose dont je n'ai pas parlé et dont je ne peux pas parler et dont je suis incapable de parler, c'est des amours. Non, je parle des amours grotesques,
oui,
des amours dont on se moque, des vaudevilles, des moments où moi j'ai été totalement ridicule. Mais les femmes qu'on a vraiment aimées, redire cet amour-là, c'est la peau morte du vécu. C'est jamais aussi fort et ça ne leur rend pas hommage. Je suis incapable de sans doute redire à quel point, traduire à quel point j'ai aimé certaines personnes et certaines femmes, et ce ne serait pas leur rendre hommage que de faire des petites descriptions, des petits racontars qui seraient très loin de ce que j'ai vécu. Donc je me suis absolument interdit d'entrer dans cette intimité que je ne pouvais pas revivre, enfin retranscrire en tout cas. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'ai eu, comme tout le monde, des amours vaudevilles, grotesques, je me suis retrouvé dans le placard quand le mari arrivait, etc. Et c'est vrai que j'ai raconté ça, parce que je pense que dans les dîners où je m'ennuie, je me dis, il vaut mieux que je raconte ça, je préfère qu'on se moque de moi quand je raconte ça, plutôt que je continue à m'ennuyer. Donc c'est vrai que j'ai raconté deux, trois choses un peu cocasses, qui sont des petits vaudevilles que j'ai retracés dans ce livre, qui sont absolument vrais.
Ah, j'imagine. Voilà, alors je saute du coq à l'âne, il y a aussi une question...
Vous avez remarqué une chose assez curieuse dans cette expression, le coq à l'âne. Je trouve que ce n'est pas juste, parce qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de femelle. Dans
ce oui, truc. C'est vrai. Alors, on fait
c'est
de la poule...
C'est pas vrai qu'on fasse de la poule au jument ou du coq, de la poule au cheval ou de la jument au cochon. Je ne sais pas, pourquoi on a enlevé la femme?
C'est une proposition qui est faite et il faut y travailler.
Parce que sauter, quand même, c'est plus agréable de...
Et puis le coq, bon,
oui.
Moi, je ne suis pas un inconditionnel du coq, je suis plus sur le maillot d'une équipe. Alors il y a aussi, là, entre guillemets, ce n'est pas du tout un clin d'œil à Sartre, donc il n'est absolument pas question dans ce livre, j'ignore totalement les rapports que vous entretenez avec l'œuvre de Sartre, qui fait aussi...
J'aime beaucoup les mots, c'est un grand livre.
Avec cette conclusion absolument sublime. Alors il y a la question juive, à un moment donné, qui apparaît... et à plusieurs reprises, vous conversez avec des personnes et en catimini, ils vous chuchotent à l'oreille, il vous demande si vous ne seriez pas juif.
Oui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis qui sont juifs. Ils sont juifs, mais je ne sais même pas qu'ils sont juifs ou pas, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais que ce soit Jean-Claude Rimbert, que ce soit un philosophe qui s'appelle Gérard Rabinowicz, que ce soit un Polonais juif que j'ai rencontré à l'hôpital, je ne sais pas pourquoi, au bout d'un moment, on parle ensemble. Est-ce que c'est l'humour, est-ce que c'est... Et chacun me dit à la fin, mais dis-moi, tu ne serais pas juif? Alors, au bout d'un moment, je leur ai promis que j'allais chercher dans mon arbre généalogique s'il n'y avait pas un petit rabbin qui se cachait quelque part, ou un mal. Je n'ai pas trouvé. Mais c'est drôle, c'est-à-dire que on a l'impression que parce qu'on tient une conversation avec quelqu'un de formidablement intelligent, comme le sont les juifs, mais aussi les non-juifs, mais aussi ça, ils se disent, mais s'il est aussi intelligent, il doit être de mon camp, de mon clan, il doit être juif, voilà. Et moi, j'adorerais un jour, d'ailleurs, qu'un Congolais avec qui je parle, à la fin, me dise, est-ce que tu ne serais pas noir, par hasard? Mais ils ne me l'ont pas encore dit. Donc, il y avait Topor, qui était juif, et qui avait cette phrase que j'aimais beaucoup. Il disait, moi, je suis juif quand j'en ai envie. Eh bien, j'ai pris la même décision.
Est-ce que vous dites, vous ajoutez, j'avais noté, évidemment, la phrase de Topor, je crois que je vais faire comme lui.
Oui, oui, ouais, exactement. Ouais.
Ça a cuni tout à l'heure. Après, il y a. Alors, vous confessez votre horreur de demain, hein, oui. À un moment donné. Donc, c'est un très joli passage. Par ailleurs, ce que je n'ai pas précisé, parce que, sans vous flatter, ce n'est pas mon style, c'est que.
Non,
c'est,
mais faites-le, ce n'est pas désagréable.
Mais néanmoins, je vais le faire pour lui faire plaisir. C'est que c'est un livre qui est remarquablement bien troussé et écrit, avec une phrase très nerveuse, très vive, très précise, et qui est très sérieusement extrêmement agréable à lire. Alors. Vous dites que vous n'êtes pas écrivain, mais que vous êtes auteur à un autre moment de cet ouvrage. Mais enfin, c'est vrai qu'il est porté par un style extrêmement vif et juste, qui sans doute correspond, c'est une novelliste qui disait, le style, c'est le caractère. En tous les cas, c'est très plaisant à lire, parce qu'on suit cette phrase qui est très rythmée, très juste et très précise. Mais j'en reviens à demain, et spécifiquement à aujourd'hui, puisque vous confessez votre amour pour l'aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire que... Je n'ai jamais eu la notion du futur. Quand j'étais enfant, je ne me suis jamais vu pompier, maréchal de France, docteur, avocat ou peintre. Je n'avais pas la notion du... Je vivais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans aujourd'hui, il y a tout. Aujourd'hui, il y a le passé, le futur, le présent. Parce que le passé, c'est aujourd'hui. C'est pas, le passé, c'est parce qu'on en parle aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, je me projetais pas. Et d'ailleurs, ce qui m'arrivait, m'est advenu. Je n'ai jamais fait de stratégie de carrière. Je n'ai jamais été quelqu'un qui ait préparé des envies avec des étapes pour y arriver, etc. Pas du tout. J'avançais aujourd'hui, les choses me sont advenues. J'ai eu de la chance, j'ai rencontré des gens, j'ai eu de la malchance comme tout le monde. J'ai eu des ennuis, des pépins. Et donc, d'une certaine manière, je n'avais pas la notion de la mort. Je pensais que ça ne s'arrêterait jamais, puisque je ne voyais pas demain, que j'étais immortel, d'une certaine manière. Et il n'y a pas très longtemps, en lisant un article dans un journal, un article d'un économiste qui disait en 2060, je ne sais pas quoi, il n'y aura plus d'eau dans tel pays. Et tout d'un coup, je me suis arrêté. Je me suis dit, mais en 2060, je serai pas là. Et tout d'un coup... C'est la première fois que cette approche du futur, cette notion du futur, m'est apparue, et il m'est apparu pour m'annoncer que, ben voilà, je n'étais pas immortel, et pour m'annoncer le terme de ma vie. Donc c'est assez curieux, parce que beaucoup de gens se projettent sur l'héritage, les enfants, il faut préparer, voilà ce que ce serait. Mais moi, absolument pas du tout, pas du tout. Jusqu'à ce moment-là où la présence, l'apparition de demain était pour m'annoncer que je n'y serais pas. Voilà.
Alors effectivement, vous écrivez dans ce passage que j'aime beaucoup, j'ai donc vécu immortel jusqu'au jour où demain m'est apparu.
Voilà.
Bah, après, manifestement, vous êtes plutôt quelqu'un d'urbain. Néanmoins, vous évoquez un petit peu les maisons de votre enfance, de votre jeunesse. Puisqu'on est à Bordeaux, il y a notamment un je ne sais pas si vous dire chapitre, parce que ça n'a aucun sens. Côté vacances, il y a le Pila. Et au-delà, vous, en parlant des maisons de famille, vous avez une très très jolie comparaison. Vous les comparez à des buvards.
Oui.
Ça m'a beaucoup plu.
Oui, ben oui, les maisons de famille, c'est un peu du vent, on y retourne. Les souvenirs ont séché comme de l'encre, mais on revoit bien les dessins de ce qu'on a vécu. C'est plus ça, d'une jeunesse où on ne savait pas à quel point les thérapies étaient courtes. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu... Voilà, c'est les traces. On retrouve les traces sans en retrouver, hélas, la vie. Et voilà. Mais oui, j'ai beaucoup, beaucoup été dans le Sud-Ouest. Non seulement ma grand-mère était bordelaise, j'avais un cousin qui était docteur même ici. Et c'est vrai que le Sud-Ouest a été un endroit où je suis allé beaucoup pendant les vacances scolaires. Mais j'avoue aussi, quand vous dites que je suis urbain, chose que j'ai dit dans un autre livre, je déteste assez la campagne quand même. J'aime bien les villes. J'avais même écrit un livre qui disait « Je n'aime pas la campagne, sauf dans le TGV, parce qu'elle va plus vite. » Voilà.
Voilà, moi j'aime bien la campagne. Bon, c'est difficile aussi, dans ce livre, il y a évidemment une question du théâtre. Je n'ai pas voulu parler d'abord du théâtre, parce qu'il est au cœur de votre vie. D'ailleurs, il clôt ce livre. Alors, ce qui est amusant, il y a encore une anecdote assez amusante, c'est la rencontre. On fait toujours des rencontres dans une vie qui vont être fondatrices aussi, je pense, de ce que l'on devient et de ce que l'on sera. Et il y en a une qui est quand même assez amusante avec Jean Mercure. Je ne sais pas si c'est un nom qui nous parle beaucoup aujourd'hui. Peut-être que vous allez pouvoir...
Oui, enfin, Jean Mercure, c'était pas un immense metteur en scène. C'était un homme qui a eu l'espèce de génie de créer à Paris... transformait le vieux théâtre Sarah Bernhardt en théâtre de la ville et qui a eu ce génie de faire une double programmation, c'est-à-dire qu'il s'est aperçu que son théâtre était au-dessus de deux choses, d'ailleurs de la rue où s'est pendu... Le trou du souffleur du théâtre de la ville, c'est exactement l'endroit où s'est pendu Gérard de Nerval, la rue où il était, et il était aussi au-dessus de la plus fréquentée des stations de métro de Paris, qui est Châtelet, où il y a... je crois, 10 ou 12 lignes qui correspondent là. Et il s'est dit, mais les gens qui sortent de leur bureau, qui arrivent vers 5h et 6h là, pourquoi en sortant, ils auraient un théâtre là et qui leur proposerait des programmes à un horaire qui ne les ferait pas se coucher tard, à 6h30. Il a inventé cet horaire qui a formidablement bien marché. Il faisait aussi, après un deuxième spectacle à 21h, je m'en suis inspiré au Théâtre du Rond-Point et ça fonctionne très bien, même si on n'est pas au-dessus d'une grosse, un gros trafic métropolitain. Voilà. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai rencontré d'une manière absolument délirante, mais je n'ai pas envie de le raconter parce que ça s'est vraiment écrit et j'abîmerai la chose, je préfère qu'on le lise.
Lisez-le, alors ça c'est un... Alors,
vous racontez, avec un chat.
Vous racontez aussi que vous avez eu la chance, malgré tout, dans vos débuts au théâtre, de rencontrer 4 critiques. Alors de mémoire, ne m'en voulez pas, il y avait Mathieu Gallet, il y avait Bertrand Poirot-Delpech, Jacques Lemarchand et Philippe...
Tesson.
Tesson, voilà.
Vous avez une bonne mémoire, bravo.
De mémoire. Je précise que Jacques Lemarchand est d'origine bordelaise et que les critiques qu'il a pu faire de théâtre, pas seulement à la NRF, mais notamment à la NRF dont il était lecteur, sont absolument admirables. Je ne saurais trop vous recommander de le lire aux éditions Claire Poland. Donc vous avez bénéficié finalement, parce que vous parlez aussi de la critique qui vous épie comme ça, vous avez bénéficié quand même au début de critiques plutôt.
Bah, c'est très curieux parce que j'ai l'impression que il y a un côté comme ça, les gens aiment découvrir les gens ordinaires. C'est ce qui se passe un peu pour ce livre. C'est que moi, je débarquais, je n'étais pas connu, et puis tout d'un coup, ils ont vu une de mes premières pièces et ils ont eu le plaisir de se dire on a découvert quelqu'un, et j'ai été très porté par certains critiques, Marc Abreu aussi après. Et Jacques Lemarchand en particulier, puisque vous parlez de lui et qu'il est de la région, c'était plus qu'un critique, c'était un auteur, c'était un homme admirablement intelligent. Mathieu Gallet aussi, c'était quand même des gens qui étaient aussi des créateurs, parce que voilà. Et donc, c'est vrai que... Et là, ce livre, parce que c'est le premier livre que j'écris quand même, la gentillesse de le dire, je suis assez épaté de l'accueil qu'il reçoit. D'ailleurs, que c'est absolument éblouissant, j'en reviens pas, je m'attendais pas du tout à ça. Et on a même été sélectionné pour le Renaudot, le Lycée, enfin voilà. Et donc, oui, j'ai été porté... au début par des critiques qui m'ont encouragé, qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont... Voilà. Mais rassurez-vous, j'ai été assassiné très vite après, plus qu'il va. Mais l'assassinat a quelque chose de bien, c'est que si vous ne mourrez pas, ça vous permet de ressusciter plusieurs fois. Et donc voilà. Et moi, en conclusion, je pense, parce que j'ai eu beaucoup de peine pour certains critiques qui n'arrivaient pas à m'assassiner, parce que je suis toujours vivant, et je me suis dit que finalement, la critique était beaucoup, la critique est difficile et l'art est facile. Car quand vous avez, allez, prenons un grand auteur, comme vous avez Molière en face de vous ou Shakespeare, faire une critique de ces gens-là, il faut être à hauteur quand même. On ne parle pas de n'importe quoi. Donc, écrire une bonne critique, ça doit être encore plus difficile que d'écrire une pièce qui, eux, leur coulait un peu des mains facilement parce que c'était des génies. Donc, je plains un peu les critiques. Mais voilà, je pense que la critique est indispensable. D'abord parce que ça donne du travail à plein de gens qui n'en auraient pas, si jamais ils ne pourraient pas faire grand-chose d'autre. Et donc, en plus, je pense que souvent, voilà, ça permet, avec des gens qui vous ressentent et qu'on ressent, d'avoir des repères. Et certains critiques sont utiles, vraiment. On n'a personne en face de soi. Donc, quand on a quelqu'un qui vous semble proche de vous, voilà. Et moi, je raconte dans ce livre, je me souviens d'Oliberti, du grand écrivain Oliberti, qui a écrit beaucoup de pièces de théâtre, qui habitait chez ma tante. Et je me souviens qu'il était terrorisé par la critique, et à chaque fois qu'il avait une mauvaise critique, il n'osait plus sortir dans la rue, il avait peur que les gens lui jettent des pierres. Il se cachait d'un arbre à un autre, il allait dans les bistrots en se cachant, parce qu'il avait l'impression que le monde entier allait lui cracher dessus. Comme quoi les critiques sont parfois exagérément considérées.
Alors, il y a un aspect du livre dont je n'ai pas parlé, c'est un petit peu le synonyme de morceau, ce sont les miettes. Ce livre est ponctué de miettes, qui sont des petites incises que vous faites libres. Alors, je vous en lis rapidement quelques-unes. Mais qu'est donc devenu Théodore de Banville, dont petit on me forçait à apprendre les poésies? Je trouve ça charmant, puis j'aime bien Théodore de Banville. La psychologie et le fumier du théâtre, aucune fraise n'y pousse, seulement des tomates à jeter sur les acteurs. Cette très jolie miette, écrire un grand livre composé de mots auxquels je ne comprendrai rien, mais dont la sonorité m'entraînerait vers des pensées jusque-là inconnues. La nature, vous en parlez tout à l'heure, ça m'a fait rire. L'homme n'est pas naturel, il est culturel, ce qui nous évite d'être asperges, mais ne nous empêche pas d'aimer le football. Ça me va bien, je suis rugbyman. D'ailleurs, vous évoquez le rugby à travers Alain Cuny dans une scène assez amusante.
J'aime beaucoup le rugby, oui.
Et enfin, serait-ce les lecteurs de Proust qui m'ont éloigné de Proust? Moi, j'adore Proust, donc j'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas participer de l'éloignement. Et encore que Proust soit parfois très drôle, et notamment dans les dîners chez Madame Verdurin. Bien, je vais conclure une petite phrase quand même qui m'a beaucoup plu, j'ai pas eu le temps. Parce qu'à un moment donné, vous dites, comme artiste, vous vous désignez comme un non-aligné. Dans une miette, vous écrivez, Topor et moi revendiquions notre statut de non-aligné, ni sur l'avant-garde, ni sur l'arrière, ni sur le côté, ni dans la marche. Bref, nulle part où il y avait des lignes. Voilà, ça m'a amusé de conclure là-dessus, parce que je trouvais ce passage très agréable. En vous remerciant beaucoup.
Merci beaucoup.